Bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, c'est une interview avec Aude que je vous propose. Aude, c'est la fondatrice anciennement de Montessori Academy, aujourd'hui du groupe Montessori International. Je vais la laisser se présenter elle-même. Aude, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ?
Eh bien, écoute, Déborah, je vais très bien. Merci à toi pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, pour me présenter rapidement et présenter un petit peu mon univers, donc, bon, je suis Aude. Je suis maman de 7 enfants et chef d'entreprise depuis 2008. J'ai vraiment porté de nombreuses casquettes au fil des années, mais là, bon, j'ai réussi à me poser. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans le Montessori et c'est vraiment un univers qui me plaît. Et puis voilà, j'ai décidé vraiment d'aller plus loin, voilà, d'aller au-delà de tout ce que j'avais envie d'apporter. C'est vraiment en 2012, donc j'ai eu ce coup de foudre pour la méthode Montessori. Dans un premier temps, c'était vraiment pour mes propres enfants, pour leur apporter quelque chose de complémentaire à l'école, parce qu'ils étaient déjà scolarisés. Rapidement, j'ai décidé de me former, parce que je me suis dit que sans formation, c'était trop compliqué. Mmh. Je suis devenue donc éducatrice Montessori dans une ambiance 3-6 ans, puis 6-12 ans. Et très, très rapidement, j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas garder toutes ces connaissances pour moi. Il fallait que je les partage, que je les transmette. C'était vraiment devenu un besoin, dans un premier temps, auprès des parents. Donc, principalement les parents qui venaient déposer leurs enfants dans notre structure. Et puis, très, très rapidement, auprès des professionnels, en fait, qui eux-mêmes souhaitaient aider les enfants et mieux les comprendre, en fait. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai fondé Montessori Academy, donc, qui avait vraiment vocation de former les personnes au Montessori. Et très très rapidement, je me suis axée vraiment sur les professionnels. Moi-même, quand je me suis formée, j'ai rencontré une grosse difficulté, c'est que les formations n'étaient pas assez professionnalisantes. C'est-à-dire qu'on n'apprenait pas un métier, on apprenait à faire du Montessori, à pratiquer du Montessori, ce qui était super, mais on n'apprenait pas à devenir éducateur. Et c'est un réel métier qui s'apprend. Donc je me dis que j'ai bien fait de monter Montessori Academy parce qu'il y a eu une réelle demande, un réel besoin de futurs éducateurs, de personnes qui voulaient se reconvertir professionnellement et devenir éducateurs, mais aussi de professionnels de la petite enfance qui étaient soit déjà en poste, soit qui souhaitaient faire évoluer leurs conditions et leur poste. Et vraiment, le premier constat que j'ai pu faire, c'est que c'était... heureusement que ça arrivait au bon moment. Voilà, c'est arrivé au bon moment. Et puis, j'ai décidé très rapidement de monter donc, le CFMI, le Centre de Formation Montessori International, qui là est un regroupement de plusieurs formatrices. Donc aujourd'hui, je suis la directrice du Centre de Formation, mais on est plusieurs formatrices Montessori. On est aussi... y a aussi des formatrices de la petite enfance. Donc, parce que cette année, on a décidé de proposer le CAP-AEPE, donc là, qui est un diplôme d'État. Donc, bon, vous voyez, toutes ces petites ramifications, elles tournent autour de l'enfant à chaque fois, mais vraiment pour les professionnels de la petite enfance.
C'est ce que j'allais dire, c'est ça la particularité, c'est que tu t'es vraiment très, très rapidement, comme tu le disais, positionnée au niveau de ton business sur les professionnels, quoi. Par cette expérience que tu as eue toi-même au moment où tu as voulu te former professionnellement.
C'est ça. C'est ça, je me suis vite rendu compte en fait que je ne savais pas m'occuper d'enfants, gérer un groupe de classe, comprendre leurs besoins. Ça paraît anodin, mais c'est vrai que comprendre l'enfant, c'est pouvoir l'aider. C'est vraiment hyper important. Puis parfois, c'est aussi pouvoir se comprendre soi-même. L'adulte que nous sommes était un enfant.
C'est ça.
Et parfois, on arrive à comprendre certaines petites cassures, certaines petites blessures qui nous aident un petit peu à avancer dans notre rôle d'adulte, en fait.
C'est ça. Et certains adultes sont toujours des enfants aussi. Ne comprennent pas, en fait, comment ils sont devenus adultes. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est vrai, c'est pas faux.
Ok. Ben, c'est génial. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, a priori, quand on s'intéresse à l'univers Montessori, on peut se dire, ben moi je suis une maman, je me suis, on peut dire, formée, intéressée, instruite, éduquée sur l'univers Montessori, ben j'ai toutes ces cartes en main, je sais quoi faire et tout, je peux très certainement proposer mes services comme professionnelle dans cette thématique-là, dans ce domaine-là, Bah en fait, pas du tout, quoi.
Bah, totalement, en fait. Et vraiment, on a cette année, on a eu une grande vague. C'est vrai que le Covid a fait qu'il y a beaucoup de formations en ligne qui se sont développées parce que bah, tout le monde avait envie un petit peu de profiter aussi de ce moment de confinement en se disant « si je peux apporter des qualifications supplémentaires, tout le monde se mettait à sortir des formations en ligne. Mm-hmm. » Tout le monde a sauté sur l'occasion. Et moi, attention, encore une fois, je trouve ça génial. Mais vraiment, je n'ai aucun reproche à faire à cette expansion de formation en ligne parce que ça nous apporte quelque chose. Que la formation soit courte, soit longue, soit professionnalisante, que ce soit juste un infoproduit, que ce soit une formation, c'est hyper intéressant de pouvoir toujours apprendre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes sont tombées sur des super offres très alléchantes. Mmh. Devenir éducateur Montessori en un mois, en deux mois, en trois mois.
La poudre aux yeux.
Voilà, on finit leur formation, se sont dit « ok, je me lance », et puis derrière, je recevais des messages « oui, mais je comprends pas, ça marche pas ». Alors ok, reprenons dès le départ, qu'est-ce qui ne marche pas? Ben, l'enfant n'est pas attentif, l'enfant n'écoute pas, l'enfant reproduit pas. Ok, c'est bien la présentation de matériel, etc. Mmh. C'est génial de savoir présenter, mais est-ce que vous savez amener l'enfant à cette présentation? Est-ce que vous savez détecter s'il a besoin de telle ou telle présentation? À quel niveau il en est? Qu'est-ce qu'il a besoin, en gros, l'enfant? Mm-hmm. Et c'est là que beaucoup de personnes m'ont dit, bah non, parce que ça, je ne l'ai pas vu en formation, en fait. On m'a dit de présenter tel matériel à partir de tel âge ou de telle compétence psychomoteur ou autre, mais c'est tout ce qu'on m'a expliqué. Et c'est là où on s'est bien aperçu que ça pouvait pas fonctionner, parce qu'effectivement, l'adulte, le futur guide, mm-hmm. parce qu'en Montessori, l'éducateur Montessori est appelé un guide, et on comprend mieux pourquoi quand on comprend son rôle. Et c'est vrai que ce guide, il est en incapacité d'aider l'enfant si lui-même il n'est pas dirigé, si lui-même n'est pas guidé. Donc c'est vrai que très très rapidement, en fait, beaucoup de personnes sont revenues derrière se former en disant bah, je veux vraiment aller plus loin, c'est vraiment ce que je veux faire, ça m'intéresse, mais je veux comprendre comment aider au mieux l'enfant.
Ok. Franchement, c'est hyper intéressant. Par rapport à Montessori Academy, si on revient un petit peu en arrière, oui. Toi, tu t'es directement lancée sur Instagram.
C'est ça.
Peut-être sur Facebook avant ?
Très, très brièvement sur Facebook. Franchement, Facebook, c'était plutôt pour moi quelque chose de très personnel, en fait. Uh-huh. C'était plus pour échanger avec les copines, ce genre de choses.
Ok, donc ça a été plutôt directement Instagram. En tout cas, c'est là qu'on s'est rencontrés, nous.
Totalement.
Et ça ne nous rajeunit pas, mais ça, on ne va pas en parler. Et donc, quand tu t'es lancée sur Instagram, tu as fait le choix de ne pas te montrer.
Oui, totalement.
De rien montrer, en fait, de toi directement, mais de mettre en avant donc Montessori Academy et puis ensuite le groupe Montessori International, enfin le centre de formation Montessori International, est ce qu'il est aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on remonte à cette époque-là d'Insta où tu t'es dit, ben voilà, Montessori Academy, c'est mon projet, je veux le présenter sur Insta, je veux le faire découvrir au monde entier. Est-ce que je me montre, est-ce que je me montre pas? Tu t'es posé des questions, tu t'es pas posé de questions, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout, Aude.
Alors vraiment, je ne me suis posé aucune question. Pour moi, ça allait de soi que je ne me montrerais pas. Pour moi, en fait, c'était pas intéressant. Me montrer, pourquoi faire? Les gens, ils n'avaient pas envie de voir la tête de Aude. Les gens, ils avaient envie de comprendre un petit peu ce que c'était le Montessori. Donc, très très rapidement, du moins, même pas très rapidement, tout de suite dès le départ, je ne me suis absolument pas montrée. Et je dois avouer que au départ, hein, soyons honnêtes, au départ, la question ne s'est même pas posée. Mmh. Je veux dire, c'était pour moi inenvisageable. Il fallait aussi que je me préserve moi, que je préserve ma famille, mes enfants. Je commençais à voir tout doucement les dérives arriver, hein, parce qu'on les a quand même vues venir. Ouais. et c'est vrai que je ne trouvais pas ça intéressant. Et puis, il y avait aussi cette peur, et qui est encore présente aujourd'hui. Hein. Il y a aussi cette peur de dire, mais si on se montre, les gens, ils vont nous suivre pour nous, pour ce qu'on propose, ouais. Ou parce qu'on se montre et parce que parce qu'on expose notre vie, notre quotidien, tout simplement.
Et est-ce que tu as cherché des alternatives assez vite au fait de ne pas te montrer? Parce que sur cette thématique-là, on a envie de montrer, comme tu disais, qu'on présente
Du matériel.
Du matériel, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Je ne trouvais plus le mot. Donc on présente du matériel, etc. Des fois, tu te dis peut-être, ouais, j'ai envie de montrer telle chose, telle chose. Comment tu fais quand tu décides justement de ne pas te montrer? Quelles alternatives tu trouves à ça?
Bah, pour moi, les alternatives, c'était de juste filmer les mains. Voilà, juste filmer les mains, juste voilà, ce genre de choses, c'était pour moi très très bien, ça suffisait amplement.
Et c'est quelque chose que tu as mis en place spontanément en fait, tu t'es pas trop posé de questions, je pense que c'est venu hyper naturellement, même en story, je sais que tu filmes des fois des petits bouts de sorties ou d'activités, etc. Donc je pense que tout ça c'est venu naturellement.
C'est ça. Alors, la partie, t'as raison d'en parler parce que la partie filmer les sorties et tout, au départ, non, je filmais pas trop ça parce que pareil, je trouvais que ça faisait partie de mon intimité, celui de mes enfants, celui de ma famille. Et je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de partager ça avec les gens? Et puis après, je me suis quand même rendu compte que les gens qui me suivent, ça reste des êtres humains aussi. Et que de partager que du Montessori, Montessori, ça fait aussi un peu penser, ça peut laisser penser aux gens. Ouais, en fait, elle fait ça H24, waouh, génial et tout. Et j'avais pas envie non plus de montrer une image trop fake en disant elle vit Montessori, elle mange Montessori, elle
Ouais, c'est
respire
ça.
Montessori. Donc je me suis dit, il faut quand même un petit peu montrer aux gens qu'il y a une vraie vie. Donc j'ai commencé à. Et d'ailleurs, c'est ce qui marche à chaque fois en story, en reels ou quoi, c'est ce qui marche le plus. C'est quand tu marches, que quand tu montres la vraie vie, quoi.
Ouais, c'est
The
ça.
real life. Donc je me rappelle le premier reels que j'ai fait. Donc ça venait de sortir sur Instagram. C'était justement un avant-après, une chambre toute en bazar, une chambre rangée, et où j'expliquais aux parents que oui, c'est normal, on est OK avec ça. Montessori, ça ne veut pas dire que tout est impeccable tout le temps, H24.
Ouais, c'est ça, c'est important de montrer les coulisses un petit peu et comme tu dis, rassurer en fait finalement les parents ou les professionnels comme quoi nul n'est parfait quoi, hein, c'est un
Non, mais
travail de
totalement.
chaque instant.
Totalement. On vit, nous aussi, hein. On a des coups de mou, on a des coups de faiblesse, on a des coups de fatigue. Et ça, c'est hyper important pour justement déculpabiliser le parent qui voudrait faire ça H24. Et c'est aujourd'hui ce que je reproche dans mathématiques énormément à beaucoup, beaucoup de comptes.
Ouais, c'est de montrer ce côté très lisse, parfait, où on ne montre pas les ratés, ou même pas les ratés, mais la vraie vie, quoi, où on montre que les paillettes et tout ce qui est Instagrammable.
C'est ça, totalement. C'est vraiment ça.
Est-ce que tu penses que c'est un choix qui pourrait évoluer, celui de ne pas te montrer?
Non, non. Vraiment, ça évoluera jamais de par ma pudeur. Alors, si, les choses ont quand même évolué, mais par exemple, je me montre à mes élèves. Donc, c'est-à-dire que mes élèves, quand on fait des lives, parce que ça aussi, j'y tiens, c'est hyper important. Et pour moi, c'est d'un côté ma marque de fabrique. Et d'un côté, je vois de plus en plus de centres de formation Montessori en ligne faire de même. Bon, après, j'ai pas breveté le principe. Mais c'est vrai que moi, depuis très, très rapidement, depuis le départ, dans mes formations, il y a des lives. C'est-à-dire que chaque semaine, les élèves assistent à un live où vraiment on revoit les points essentiels ensemble, etc. Parce que il faut savoir, bon, désolé, là, je m'écarte un peu du sujet, mais
Pas du
il
tout.
faut savoir qu'en neurosciences, et ça c'est hyper important justement pour ceux qui veulent faire des formations en ligne ou qui en font, qui en proposent, il faut savoir qu'en neurosciences, on explique que le cerveau, il est malléable et il apprend de différentes manières. Mais quand on apprend tout le temps de la même manière, le cerveau, au bout d'un moment, il devient feignant et il se dit, bon. C'était la même chose que la dernière fois, que la dernière fois, que la dernière fois. Donc, il ne cherche pas à comprendre le contenu. Il se dit, c'est la même chose. C'est encore une vidéo, une énième vidéo. Et il se dit, c'est bon, je prendrai le temps d'écouter plus tard. Donc, il se déconnecte. Et le fait de proposer plein de supports, c'est-à-dire que nous, dans nos formations, vous avez des audios, vous avez des vidéos, vous avez que du texte, vous avez des jeux, et il y a les lives. Parce que quelque chose, un élève qui va assister à un live, il a même eu beau lire le cours, écouter le cours, lire la vidéo du cours juste avant, et ben le live, son cerveau, il se dit ça, c'est en direct. Elle parle, elle va pas parler deux fois.
Ouais, c'est
Donc
ça.
t'écoutes, t'es attentif. Et donc vraiment, vraiment, dans toutes les techniques de e-learning, parce que moi, je me suis beaucoup, beaucoup formée justement sur la formation en e-learning pour vraiment essayer de trouver les meilleures techniques d'apprentissage pour mes élèves. Et ben tous les professeurs sont unanimes de dire attention, quand vous allez prendre vos élèves en visioconférence, ils vont retenir 60% de plus que s'ils ont fait le même cours, même en vidéo. Même si c'est la même chose en vidéo, eh ben ils l'auront plus retenu en visioconférence. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de très très important. Au début des visioconférences, je ne me filmais pas, je filmais un PowerPoint. Et de plus en plus maintenant, si je me mets face à la caméra, parce que c'est vrai que là, ça commence à faire long. Ça fait 7 ans que je fais de la formation, et ça fait maintenant, parce que j'ai commencé avant le Covid. Pour une fois que j'ai senti quelque chose arriver, je dois avouer que je me suis mis au distanciel avant que le Covid arrive. Et ça va faire 4, c'est quand on s'est rencontrés, donc ça va faire 5 ans.
C'est ça.
Donc ça va faire 5 ans maintenant que je fais du distanciel. Et donc c'est vrai qu'en 5 ans, bon là ça commence à faire du coup beaucoup. Et j'aime ce contact avec les élèves. Et donc je préfère maintenant me montrer face à la caméra, parce que je trouve que c'est plus convivial, même pour les élèves qui me... Mais voilà, c'est vraiment le seul écart, entre guillemets, que je suis en capacité de faire.
Ouais, mais donc ça n'évoluera pas en ligne, parce que comme tu dis, de te montrer pour tes élèves, c'est hyper important. Donc ça c'est même dans un cadre plus intime, donc c'est pas un souci, mais sur ce qui est du grand public, on va dire, c'est un choix qui restera comme ça,
tel qu'il est. Ouais, vraiment, et des fois j'y réfléchis, hein, parce qu'effectivement, les choses évoluent, Instagram évolue, l'algorithme pour être visible, soyons clairs, on va pas se mentir, hein, il évolue aussi, et c'est vrai que non, parce que en fait, j'ai peur justement d'arriver à un moment donné où il y a une dérive, où on se dit, oui, mais on se montre juste lors des lives. Puis finalement, on se montre en story. Puis finalement, en fait, on se montre dans la vie du quotidien. Et puis finalement, en fait, on n'a plus de limites, plus de barrières. Et je trouve que c'est hyper important. J'ai une vie très atypique, on ne va pas se mentir. Je suis maman de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je sais que ça suscite, et pourtant, j'essaye vraiment de faire mon mea culpa là-dessus, en disant aux gens, mais attendez, je ne suis pas parfaite. Hein. Ma maison, c'est le bazar. Il y en a de partout. Bref, c'est une catastrophe, mais vraiment, j'approuve. Et je remercie mon mari d'être aussi patiente là-dessus. Mais c'est pour leur dire, voilà, on n'a pas rien sans rien. Donc, c'est vrai que quand on voit sur Instagram une maman qui a qu'un seul enfant, qui fait que du Montessori toute la journée, du lever au coucher, c'est sûr qu'une maman de 3 enfants qui est débordée par son quotidien, elle ne va pas se reconnaître. Et j'avais peur justement d'en arriver là, de montrer que ce qui est Instagrammable, puis c'est normal, on n'a pas envie de montrer nos défauts, nos failles aux autres, c'est trop, trop intime. C'est plus intime de montrer ses défauts que de montrer ses qualités. Et puis on a tendance à les enjoliver, ses qualités. Je me rappellerai toujours, un jour j'étais en train de faire une conférence avec mes élèves, et mon mari à ce moment-là passe pas trop loin de la pièce, m'entend dire des choses, et puis il fait demi-tour, il passe sa tête au travers de la porte, il me regarde, il repart. Et puis moi je continue ma conférence, et puis à la fin de tout ce que j'ai dit, j'explique toujours à mes élèves, attention, entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, je suis pas moi-même en train de l'appliquer tous les jours, mais je sais que je devrais l'appliquer tous les jours, mais c'est comme tout dans la vie, on sait ce qu'il faut faire, mais on sait qu'il faut manger sain, on sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes tous les jours, est-ce qu'on le fait tous les jours?
Non,
pas forcément.
En tout cas, moi je parle pour moi, non.
Oui, est-ce que parfois on fait des petites entorses?
Oui.
Voilà, même des grosses. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, et du coup le soir, je me rappellerai toujours avoir eu cette conversation avec mon mari, où il me dit, mais quand même, je trouve ça culotté ce que tu dis à tes élèves. Je dis, mais attends, soyons clairs, je leur dis ça, mais je suis toujours très honnête avec elles.
Oui,
tu fais le disclaimer,
bien sûr.
Voilà, je leur fais jamais croire que moi, tout ce que je leur dis, je le mets en pratique H24 dans ma vie. Mm-hmm. Il y a des fois, surtout quand je parle d'éducation positive, bienveillante, je rajoute toujours à la fin à mes élèves, je crie, je me fâche, vous inquiétez pas, le parent parfait, comme je dis souvent, le parent parfait n'existe pas, ou sinon il n'a pas d'enfant.
C'est clair. Et ça, je pense que c'est pareil qu'on ait 1 ou 7 enfants, parce que c'est ils peuvent susciter ça chez nous, peu importe leur nombre.
Mais totalement. Et c'est pour ça, voilà, pour revenir sur le fait de pas trop se montrer, c'est pour ça que vraiment je pense. Et j'ai aussi mon mari qui est un garde-fou, mais c'est vrai, hein, soyons clairs, c'est très important ça aussi de le dire, qu'ils sont là aussi pour nous soutenir dans notre travail, mais aussi nous aider à pas dévier. Alors, je suis pas en train de dire que celle qui se montre dévie, hein. Je parle vraiment pour moi, pour ma propre personne. Je trouve que c'est nous préserver. Qui soit là aussi pour nous dire attention, c'est aussi ça nous préserve de dire bah voilà on... la dérive, excusez-moi, hein, mais vraiment la ligne entre les deux, entre ne pas se montrer et se montrer, elle est tellement fine que effectivement il y a des gens qui peuvent se montrer de manière parfaite entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment ils parlent, ils expliquent, ils montrent des choses et puis on passe à autre chose. Et puis il y en a qui sont dans l'exagération totale de montrer leur vie, voilà. Encore, alors, bon c'est une petite aparté, si tu veux la couper, tu la couperas. Mais encore ce matin, donc je scrollais sur Instagram et je tombe sur la publication d'une maman qui est paniquée, qui se filme paniquée, oui, mon enfant a une grosse boule à la tête, vite, faut que je l'emmène aux urgences. Et là, pour moi, c'est clairement une grosse dérive des réseaux sociaux.
Oui, voilà.
Mais ton enfant est en détresse, est en souffrance, tu ne te filmes pas. Tes abonnés ne vont pas t'aider, ils sont pas avec toi. J'allais dire, même si tu as des abonnés urgentistes, médecins, pédiatres, ils sont pas avec toi. Et c'est là, en fait, où tu te dis de tout partager. Des fois, c'est trop. Voilà. Et ça me conforte encore plus de me dire, c'est aussi notre petit jardin secret. C'est très, très important de préserver notre famille, nos enfants. Et je vais même aller plus loin, moi, sur le Montessori. Vraiment sur la partie Montessori, parce qu'il y a beaucoup de comptes qui le font, qui se montrent, qui montrent les enfants. Et moi, comme j'explique aussi souvent, le cerveau de l'enfant, il est petit, il est fragile, il est en construction. Et il ne faut pas croire, ils analysent tout. Donc là, je ne vais même plus parler de nous en tant qu'adultes, je vais parler des enfants, de montrer les enfants sur les réseaux. C'est une dérive qui peut faire beaucoup de dégâts parce qu'on le voit en fait, et moi je le vois aussi en classe quand je filmais les enfants, et comme je vous dis, je ne filme pas la tête des enfants, hein, juste les activités des enfants, c'est pour ça que j'ai fini par arrêter. Ils étaient en demande, en fait ils étaient là, ils voyaient qu'on sortait le téléphone, même si on essayait d'être le plus discret possible. Je vous assure que j'ai tout essayé. Alors au départ j'étais pas du tout discrète, hein. Je sortais mon téléphone, je filmais rapidement et puis je postais sur les réseaux. Et puis au bout d'un moment j'ai commencé à voir les enfants venir vers moi. Ah, j'ai fini mon activité, tu viens me filmer? Oh là là, je me suis dit quelle catastrophe. Parce que là en fait on est clairement dans ce qu'on appelle le besoin intrinsèque extrinsèque, et là en fait le besoin intrinsèque de l'enfant de faire son activité, il est dévié par le besoin extrinsèque de dire je veux que l'adulte me filme, parce que s'il me filme, ça veut dire que c'est bien,
c'est
ce que je fais.
C'est ça.
S'il me filme pas, ça veut dire que c'est nul ce que je suis en train de faire. Et là je me suis dit au secours. Donc après j'étais plus discrètement, je posais mon téléphone en mode allumé, je le posais dans un coin, je le laissais filmer toute l'ambiance et je faisais des montages, voilà, pour un petit peu, mais en fait les enfants repéraient le truc et puis c'était la même chose. Donc c'est pour ça que très très rapidement j'ai totalement arrêté. Donc c'était uniquement moi qui me filmais en train de faire des présentations, ou sinon je demandais à une des plus grandes de mes enfants de filmer les activités avec moi, mais les activités qu'elle connaissait déjà. Comme ça, en fait, je n'interférais pas sur ses besoins. C'est-à-dire que je ne lui faisais pas faire des choses, par exemple, qu'elle était en train d'apprendre. Parce que je me dis, si je la filme en train de faire des choses qu'elle est en train d'apprendre, elle ne va plus avoir envie d'apprendre, elle va avoir envie que je la filme. Donc, on nuit, en fait, à ses capacités d'apprentissage. Et on le voit, du moins, j'ai vu des vidéos sur les réseaux Montessori, hein, je parle toujours, de parents qui filment leur enfant en train de faire des activités, mais limite on est dans de la, je voudrais pas dire de la malveillance, parce que je pense pas du tout que le parent veut être malveillant, mais on est dans de la douleur psychologique pour l'enfant, c'est-à-dire que tu vois le parent discrètement dire à l'enfant « tu vas y arriver ?» Mais c'est pas ça que je t'ai montré là, c'est limite t'es en train de me mettre la honte devant tout le monde, et voilà, et encore une fois c'est ce que je dis aussi aux gens, on peut faire 10 000 prises avant d'avoir la bonne. On vous filme que ce qui est Instagrammable, encore une fois.
Ça.
Bon, bref, il y aurait tellement de sujets là-dessus, mais c'est vrai que moi, en tant que spécialiste Montessori, c'est vraiment mon alerte. C'est-à-dire que de montrer trop, surtout dans le domaine de la petite enfance, parce que ça a tendance à dévier sur les enfants.
Ouais, je te rejoins tout à fait. C'est hyper important d'avoir précisé ça, donc je te remercie vraiment pour ça.
Merci.
Mais pour ce qui est de ta voix, alors, est-ce que tu as aussi eu cette réflexion, ou est-ce que c'est venu spontanément aussi ?
Alors, c'est pas venu spontanément parce que j'ai toujours eu un gros problème avec ma voix. Et vraiment, j'ai jamais supporté ma voix. Alors, c'était avant, hein, parce que vraiment, maintenant, j'ai plus aucun problème. Je me sens très, très à l'aise. Alors, j'avoue que tu es pour beaucoup,
Ah
soyons
bon?
clairs. Parce que, oui, parce que c'est vrai qu'on en a souvent discuté justement
Oui.
quand on faisait nos débuts toutes les deux. Et c'est vrai
Ouais.
que plein de fois, tu me disais, mais oh, parce que t'es très à l'aise. Moi, je te trouve très à l'aise à l'audio. Voilà, vraiment, quand tu parles, t'as une aisance.
C'est ça.
Puis voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah oui, ça me dérange pas. Ma voix, ça me dérange pas trop qu'on l'entende. Franchement, c'est pas un problème. Si demain je suis obligée d'appeler des gens au téléphone, alors c'est rigolo parce que, ouais, ça c'est rigolo. Je pense que c'est un très très bon exercice qui m'a permis vraiment de décomplexer parce que moi, il faut savoir que je suis une personne. Alors, je pense que je ne le suis plus vraiment, mais encore. Je suis quelqu'un de base très, très, très introverti. Mais vraiment, ça peut paraître bizarre. Et je sais que quand j'en parle avec des personnes, ils me disent « Oui, mais c'est ça, la blague. Toi, introverti. » Mais non, non, mais c'est véridique. S'il fallait, quand j'étais plus jeune, et quand je dis que j'étais plus jeune, c'est quand j'avais 22, 23, 24. Donc, voilà, c'est jeune pour moi maintenant, qui en ai 10 de plus. Mais s'il fallait que je passe un coup de fil à une administration, même à
Ah
mon
oui.
bailleur, c'était une horreur, mais vraiment, vraiment, je repoussais le coup de fil jusqu'à la dernière minute, quoi. Et c'est pour ça que ça m'a valu aussi plein de problèmes, parce que des fois, j'attendais tellement la dernière minute pour appeler que c'était trop tard, qu'on me disait, oui, mais fallait nous appeler la semaine dernière, madame,
Oui, mais je
parce
pouvais
que
pas, j'étais pas prête.
ouais, c'était vraiment, je transpirais, j'avais le cœur qui battait à mille à l'heure, les mains moites, et ça a ponctué toute mon enfance, toute ma jeunesse. S'il fallait que j'aille parler à un professeur pour lui poser une question, c'était une horreur. Et non, et je trouve que cet exercice de pas me montrer, de juste parler aux gens, bon bah au départ j'étais pas aussi à l'aise que maintenant, donc c'était un peu compliqué. Et puis au fur et à mesure, je pense que oui, ça joue d'avoir une bonne éloquence, on va pas se mentir, de trouver ses mots très facilement, très rapidement, bah ça nous aide aussi. Et puis c'est vrai quand j'ai vu que les gens étaient réceptifs à ce que j'avais à leur dire, et bah ça m'a motivée encore plus.
Mais bien sûr, surtout que toi, tu as vraiment cet avantage d'avoir beaucoup d'énergie dans ta voix, donc ça sert totalement ton activité d'exploiter cette qualité-là, quoi.
Mais c'est exactement ça. Alors, pour te faire rigoler, à un moment donné, donc, pour celles qui ont suivi, vous verrez de quelle période je parle. Pour celles qui n'ont pas suivi, il n'y a pas d'intérêt. Mais à un moment donné, j'ai souhaité faire un partenariat avec un autre centre de formation. Donc, je me suis
Oui.
retrouvée à faire des lives avec des formatrices de ce même centre de formation. Et moi, je ne me montrais pas. La formatrice qui était avec moi, elle se montrait. Donc, on était en duo live Instagram. Elle se montrait. Moi, par contre, je ne me montrais pas. Et ça, c'était pour moi rédhibitoire. De toute manière, je ne transigerais pas. Et à la suite de ce live, je vous jure véridique, les gens m'ont envoyé. La formatrice, on la voyait, elle ne nous donnait pas du tout envie. Toi, juste, tu parlais, ta voix, elle dégageait quelque chose qui nous donnait envie de venir vers toi. Donc, la preuve que se montrer, ça fait pas tout. Ça
Ça
fait
fait pas tout,
vraiment
c'est
pas
ça.
tout.
Ouais, absolument. Et c'est vrai que c'est marrant. J'allais justement le dire, il y a des personnes qui se montrent mais qui dégagent pas autant d'énergie, etc. Donc là, c'est vraiment top que tu puisses être relaxe par rapport à ça. Donc évidemment, dans tes formations, ben il y a la partie où tu parles. En plus, on te voit
Totalement.
dans les lives que tu fais avec tes élèves. On t'entend aussi dans des lives Instagram et quelquefois même en story. Est-ce que Petite question subsidiaire, ma chère Aude, est-ce qu'on peut entendre ta voix dans un podcast?
Alors oui, oui. Le podcast, il est en préparation depuis plus de 3 ans.
Eh oui, je sais.
Donc, en fait, je dois avouer que je veux tellement faire de choses. C'est un peu mon côté multicasquette. Je veux tellement faire de choses, tellement apporter. Là, je suis en train de préparer. Alors, je devais préparer. Ça me fait rigoler parce qu'en fait, je repense au live où j'ai assisté, où tu étais avec Safia, qui parlait elle aussi de son programme et qui disait ça devait être un petit programme de
Oui,
quelques
c'est
jours et
ça.
finalement, c'est plusieurs semaines. Et ben, en fait, c'est exactement la même chose. J'ai dit à une de mes collègues, oui, viens, on fait une masterclass sur 3-4 heures pour expliquer aux élèves comment on passe de la classe 3-6 à la classe 6-12. Elle me dit, ouais, génial, c'est une trop bonne idée parce que ça, c'est vrai que c'est très peu vu dans les formations Montessori, ce passage de niveau, me dit pas de souci, envoie-moi le plan de formation et on commence à travailler dessus. Je lui ai envoyé un plan de formation en 8 modules. Elle me dit, mais ça, c'est une formation, c'est pas une masterclass, on fait pas rentrer ça en 3 heures. Impossible. Donc non, là, je dois avouer que je délègue beaucoup. Donc, même la partie podcast va être déléguée. Alors, elle va pas être déléguée dans la création du podcast, hein, c'est moi qui vais le créer. Mais voilà, je vais prendre une personne qui va m'aider dans le montage et dans l'export sur les différentes plateformes parce que moi, j'aime parler.
Ouais.
Donc, je parle, j'ai déjà au moins... je dois avoir une vingtaine de podcasts de entre 20 et 30 minutes. J'ai essayé de faire des formats courts qui sont déjà prêts.
Ah, bah, c'est sur bien, c'est le projet est avancé.
Oui, c'est ça. En fait, il manque que les montages et puis après de tout balancer sur les plateformes. Donc vraiment, ça va parler du Montessori, mais de l'éducation en général, des enfants, de leur développement. Vraiment, j'ai tout englobé parce que vraiment, le Montessori, au-delà d'une pédagogie éducative, où on apprend à utiliser du matériel, c'est vraiment au-delà. On apprend à s'occuper, entre guillemets, de l'enfant, à l'aider à évoluer, à grandir et à devenir un adulte. Donc, c'est important de parler aussi de tous les aspects. J'ai parlé dans un podcast, j'ai parlé par exemple de l'empathie chez l'enfant. Je trouve que c'est quelque chose de très, très intéressant parce que dès tout petit, il y a cette notion d'empathie qui se crée chez le 0-3 ans. Et si on ne l'accompagne pas dans cette création d'empathie, ça ne peut pas marcher. et il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui parfois, on se dit « Ah, je veux être un parent bienveillant, donc je fais ça. » Et en fait, on se rend compte qu'on est bienveillant vis-à-vis des autres, mais pas vis-à-vis de notre enfant. Donc, ça ne marche pas.
C'est ça, ouais.
Donc, c'est vraiment un podcast qui va être aussi bien pour les parents que les professionnels parce que ça concerne tout le monde, en fait.
Hyper intéressant. Moi, j'ai hâte qu'il sorte. Tu as déjà une petite idée du timing ?
Pas du tout, parce que là, comme je te dis, j'ai vraiment envie de sortir les ateliers gratuits que je prépare. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment, j'insiste, moi, mon métier aujourd'hui, c'est vraiment d'être formatrice Montessori, formatrice de même la petite enfance plus généralement, et d'accompagner les parents. Nos formations Montessori, ce sont des formations professionnelles, donc effectivement, qui ont un certain coût, mais qui est justifié au nombre d'heures de travail qu'il y a, et vraiment, les élèves, elles en ressortent, mais tellement enrichies. Mais de l'autre côté, on veut aussi partager des choses sans forcément qu'il y ait une notion financière derrière. Le but, c'est de faire évoluer tout le monde. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Donc, c'est sûr qu'à la rentrée, ça sera sorti.
Ah,
sûr.
Bon, ça va, c'est déjà pas mal. Voilà. En termes de timing, c'est bien, on est bien. Ok, donc gare à toi, je reviens voir tout ça d'ici la rentrée.
Pas de souci.
Ok, alors Aude, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux femmes qui ont envie de se lancer en ligne, mais qui ont peur de ne pas être marquées, tu vois, parce qu'elles se disent « je ne me montre pas ». Parce que quand on voit ton parcours, je fais une petite parenthèse, mais quand on voit ton parcours, il est hyper inspirant, tu vois, t'es passé d'une structure à une autre, t'as eu un partenariat, puis ça n'a pas été, mais t'as jamais lâché l'affaire, t'es toujours resté fidèle à tes valeurs et à ton éthique et à tes idées de base. Donc, tu ne t'es pas montré, mais ton entreprise a fait un bond incroyable.
Totalement.
Tu es une preuve vivante que ça peut fonctionner quand on reste fidèle à ce qu'on a décidé envers soi-même, à ses propres engagements. Du coup, qu'est-ce que tu aurais à conseiller aux femmes qui ont envie de faire comme toi dans ta thématique ou dans une autre, hein, mais tu vois, qui ont envie de se lancer, mais qui ont peur parce qu'elles ne se montrent pas ?
Le premier des conseils, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qu'on a envie de partager. Clairement, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de partager avec les autres ? Parce que encore une fois, il y a des gens, ils vont clairement te dire, moi j'ai envie de partager mon quotidien, ma vie, quand je fais à manger, quand je fais le ménage et tout, et c'est louable, et il y a rien à redire là-dessus. Mais c'est vrai que quand on a envie de partager quelque chose de plus profond, au-delà de nous-mêmes en fait, au-delà de notre personne, franchement, il faut absolument pas craindre de ne pas se montrer, parce que les gens, ils seront réceptifs. Moi, je l'ai vu vraiment. Les gens sont présents, les gens sont là, les gens sont à l'écoute. On aura toujours des détracteurs qui auront toujours quelque chose à redire. Moi, très régulièrement dans mes lives, j'ai un petit message qui dit oh, pourquoi on voit rien ? Moi, j'aime pas les lives où on voit rien. Oui, écoute, si t'aimes pas les lives où on voit rien, sors. Je veux dire, il y a la radio qui existe, et pourtant la radio, on voit rien, et personne n'a à redire sur le format radio.
C'est ça.
Et comme j'explique aux gens, je dis pareil, quand vous écoutez un podcast, on voit rien sur un podcast, et personne n'a à redire sur le podcast. Donc vraiment, quand on a quelque chose à partager, j'allais dire quand on a quelque chose de valeur à partager, mais même pas quand on a quelque chose de sincère à partager, c'est là que les gens sont réceptifs. Et vraiment, encore une fois, il ne faut pas se tracasser. Moi, quand j'ai commencé, alors j'ai des gros soucis de 10. donc voilà, c'est pas un secret, je n'en fais pas un secret. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé, bah pareil, au-delà de ne pas me montrer, on me disait souvent toutes les fautes d'orthographe. Et bah, ça, c'est plutôt dans les postes. On est bien d'accord que dans mes cours de formation, ils sont relus,
bien
ils
sûr.
Sont corrigés par des personnes. Mm-hmm. Et c'est logique. Je veux dire, même quelqu'un qui est hyper bon en orthographe, je peux vous assurer qu'il a une relectrice ou un relecteur d'ailleurs.
Il a et quelqu'un parfois qui même après ça, il y a encore des fautes qui persistent. C'est...
Totalement. Mais vraiment, vraiment, il faut vraiment arrêter avec
ce complexe.
Ouais, c'est ça, cette lubie de dire l'orthographe, faut que ça soit impeccable. Bon, je suis bien d'accord que si j'écris le chat et la vache et AI, vous allez dire là, t'abuses, Aude, quand même. Voilà, mais on est bien d'accord que si c'est une faute de frappe, d'accent, de machin, de. Des fois en plus, alors moi, je vous assure que comme j'aime beaucoup parler, je fais souvent en plus de la dictée vocale. Mmh. Et ça, des fois, c'est une catastrophe. Si j'envoie sans me relire, alors
Le correcteur orthographique.
Ah ouais, il s'en est donné à cœur joie. Donc, c'est pour vous dire que vous aurez toujours des détracteurs, il y aura toujours des gens qui auront à redire, mais quand on regarde que cette proportion, elle est tellement minime, moi, depuis que j'ai commencé, donc je vous ai dit, ça fait 7 ans, j'ai peut-être dû avoir une dizaine de personnes qui a émis des critiques publiques vis-à-vis de moi. 10 personnes en 7 ans, on est sur une petite moyenne d'1,5. Je pense que c'est bon, je peux m'en remettre. Mais c'est vrai que l'introvertie que je suis au départ avait beaucoup de mal à passer outre. Bien vraiment, sûr. Vraiment, je vous assure que c'était une catastrophe. Je restais enfermée dans ma chambre en me disant « c'est bon, j'arrête tout ». Et en fait, quand j'avais des gens derrière qui m'envoyaient des messages en me disant « heureusement que j'ai pas de haters, moi, parce que sinon, c'est fini ». Non, je rigole, petite blague à part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit « il y a tellement plus ». De gens qui aiment ce que je partage,
c'est ça.
Que de gens qui n'aiment pas, que le fait que je me montre pas, c'est pas un problème. Les gens s'en moquent de savoir à quoi je ressemble. Et ce qui est important, c'est ce que vous allez transmettre. Et vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, Déborah, il y a des gens, parfois, ils se montrent, ils transmettent rien. Il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas d'émotion. Et du coup, très vite, bah, c'est plus intéressant en fait. Il n'y a pas cette touche où tu te dis waouh, j'ai envie de continuer à voir ce que cette personne partage. Alors que voilà, partager des contenus authentiques, voilà, c'est le mot. Authentique, ça va être la clé. Et puis encore une fois, voilà, le but, il vaut mieux avoir 500 personnes qui nous suivent, qualitatifs, qui sont vraiment là pour écouter ce qu'on a à dire et ce qu'on a à partager. Que 10 000 personnes, mais voilà, que la plupart s'intéressent même pas à ce qu'on fait, c'est très démotivant. Je vous assure que ça peut être très très démotivant de partager, de se dire ah bah ouais, j'ai 10 000 personnes qui me suivent, j'ai 5 personnes qui ont aimé mon poste.
Ouais, c'est ça. Ah, je suis d'accord avec toi sur ça. Ouais, c'est hyper important. Il faut arrêter de faire une fixation sur le nombre de personnes qui suivent et tout. Et si tu peux impacter, comme tu disais, même 100 personnes, si tu as une audience de 100 personnes, mais les 100 personnes, elles sont là, elles sont vraiment là, elles interagissent avec toi, tu sens que tu les as aidées, que tu leur es utile. Parce que ça, je pense que pour les grandes hypersensibles que nous sommes, c'est la clé de tout. On a besoin de se sentir utile, que ça ait du sens, etc. Donc, ouais, il vaut mieux ça que d'avoir, comme tu dis, une communauté de 10 000 personnes, dont 5 000 sont des robots qui répondent des trucs incohérents en anglais sous chaque poste.
Oui. C'est ça. Là, en plus, en ce moment, là, sur Instagram, il y a pas mal d'attaques. Ouais, vraiment.
Non, mais donc, je te rejoins et vraiment, merci pour ce très, 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 très bon rappel que tu viens de nous donner. Donc, pour ce conseil aux femmes qui auraient éventuellement peur de se lancer en ligne, quoi. Merci beaucoup, Aude.
Merci aussi à toi, Déborah, vraiment, sincèrement, parce que je trouve que de mettre à l'honneur et de mettre en avant ces femmes qui ont décidé justement de ne pas se montrer, c'est très important justement pour valoriser et dire on n'a pas besoin de se montrer pour réussir. Je veux dire, voilà, sans trop dévoiler de nos vies, mais respectivement avec plusieurs personnes, on a commencé en même temps. Toutes, on ne se montre pas et je trouve que franchement, vraiment, je remercie Dieu pour ça parce qu'on s'en est très bien sorti. Mais pourquoi ? Et encore une fois, la clé, c'est parce qu'on avait quelque chose de qualitatif à partager avec notre communauté. Et donc, ça a été, moi, je trouve que ça a été très bien réceptionné.
C'est ça.
Et ça, c'est super.
Ouais, ouais. Vraiment, bah, je partage tout. Hein. Je mets un petit cœur sous tout ce que tu viens de dire.
Génial.
des likes, des pouces, tout ce que tu veux. Et alors, est-ce que tu peux encore nous refaire un petit topo, je dirais, sur ton actualité ou sur ce qui va arriver à moyen terme, puisque tu nous as parlé donc du podcast, ça on sait, c'est pour la rentrée, je vais te laisser tranquille avec cette histoire-là. Tu as parlé des ateliers gratuits, etc. Mais donc, globalement, tu peux nous refaire un petit point sur ton actualité ?
Alors, bah, globalement, je vous avouerai qu'on est pas mal occupé. Donc, généralement, les formations Montessori, elles ouvrent de octobre à juin. Mm-hmm. Voilà, elle démarre en octobre, elle finit en juin. Mais là, on a eu une telle vague de demandes. C'est quand que ça ouvre ? C'est quand que ça ouvre ? Donc, bah, lundi, alors vous voyez, c'est très, très... le 20 février, on réouvre les inscriptions pour les formations 03, 36, 6, 12. Et la très grosse nouveauté, mais là, c'est une bombe atomique qui arrive, la 12-18.
Ah, donc vraiment, génial.
C'est une formation qui est à destination des professionnels de la petite enfance, donc qui ont déjà été formés soit en petite enfance ou en Montessori, pas forcément en Montessori, mais vraiment qui ont vocation de travailler avec des adolescents. Je veux dire, nous, on n'est pas là pour vendre à tout prix à n'importe qui. Si cette forme, du moins, si c'est pas une personne qui a vocation de travailler avec les adolescents, pardon, ça ne va absolument pas lui servir. C'est vraiment accompagner l'adolescent, l'aider dans son cheminement pour être un adulte avec les outils Montessori. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et encore une fois, j'ai fini de rentrer la formation ce week-end dans la plateforme. Je suis encore en train de rajouter des choses.
Bien sûr,
je n'en peux plus.
Pourquoi faire simple ?
Donc, pareil, vraiment, là, on est en train de tout préparer pour vous montrer parce qu'on a, on a changé de plateforme aussi. Donc, c'est pas trop. C'est sur l'actualité du centre et je pense que ça a toute son importance, mais vraiment, on a basculé, on a tout testé, hein, pour celles qui connaissent un petit peu les formations, on a fait Systemio, on a fait Cuneo, on a fait Schoolmaker, on a fait 360 Learning et bien d'autres, vraiment, et moi j'avais un goût de « il manque quelque chose ». Vraiment, pour les formations que je voulais apporter à mes élèves, à chaque fois je me disais oui mais il n'y a pas ça, oui mais il n'y a pas ça, je le trouvais dans une formation, dans une plateforme, mais je ne le trouvais pas dans l'autre.
C'est ça.
Et ben ni une ni deux, on a créé notre propre plateforme de formation.
Ah ben ça c'est génial.
Donc vraiment c'est quelque chose d'inédit, c'est comme j'aime l'appeler, c'est un mini réseau social de la petite enfance. Donc vraiment les élèves qui sont inscrits sur la plateforme, ils ont accès à leurs cours, ils ont accès à leurs professeurs, ils ont accès à leurs classes. Donc, on a essayé de réunir les élèves par classe, justement pour... Alors, par exemple, les élèves qui commencent d'une année à une autre, qui commencent en octobre jusqu'en juin, ils sont dans une même classe. Là, on va ouvrir une session donc, où tout le monde pourra venir s'inscrire. Ils seront dans leur propre classe aussi. Ils n'arriveront pas dans une classe qui est déjà constituée comme ça. Vraiment, ils peuvent échanger, interagir. Et puis, ça rend un petit peu la formation en ligne un petit peu plus humaine, en fait. C'est-à-dire que vraiment... alors, généralement, je fonctionnais comme beaucoup de formateurs font. On fonctionne avec un groupe Telegram ou WhatsApp. Ben nous, en fait, le groupe Telegram et WhatsApp, il a été propulsé sur la plateforme. Donc, vraiment, les élèves n'ont pas besoin de sortir de la formation, de la plateforme pour communiquer avec la prof, pour communiquer avec les autres élèves, pour échanger, envoyer des documents, envoyer des photos. Ils peuvent vraiment tout faire. Vraiment, là, je vois pas ce qu'ils ne pourraient pas faire en relation avec la formation, bien entendu. Elle ne fait pas encore le café, la plateforme.
C'est ça.
Mais du coup, c'était vraiment le but de réunir tout. Y a des jeux, des applications de techniques de neurosciences en e-learning sur la plateforme. Vraiment, c'est... et tu me connais, hein, Déborah, je suis rarement fière de ce que je fais. Ça, c'est un gros, gros problème. J'ai toujours quelque chose à redire.
Mais là, t'es contente.
Ah ouais, cette plateforme, vraiment, quand j'ai commencé à apprendre, quand j'ai commencé à me former, j'aurais voulu avoir ce type de plateforme. Parce que vraiment, les élèves sont guidés, sont chouchoutés. Je veux dire, vous appuyez sur commencer la formation,
et on se laisse porter.
Arrêtez. Voilà, c'est ça. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, mais des fois, il est 2h du matin, je me dis, bon, faut peut-être qu'il me coucher, quoi.
Ouais, trop bien, ça.
Ils ne voient pas vraiment, c'est un système de cours, exercices, petits jeux. C'est surtout ça, vraiment. On a utilisé les techniques Montessori avec les adultes, tout simplement. Voilà, la grosse, grosse nouveauté, c'est ce lancement de cette plateforme au grand public, j'ai envie de dire, et une nouvelle formation qui, à aujourd'hui, n'existe Pas vraiment. En tous les cas, moi, en France, je ne l'ai jamais vu. C'est une formation aussi sur la psychopédagogie. Alors, qu'est-ce que c'est la psychopédagogie? En gros, alors, psychopédagogie Montessori, bien entendu, mais elle pourra s'appliquer à tous les corps de métier, en fait, qui travaillent dans la petite enfance. C'est vraiment comprendre qu'est-ce que c'est la pédagogie Montessori, pourquoi on la met en application, quels sont les bienfaits de cette application, et comprendre le développement de l'enfant, les besoins de l'enfant, les neurosciences affectives, les neurosciences cognitives. Donc vraiment, en fait, comprendre l'enfant. Et on l'a sorti, ce chapitre, parce que c'est même pas un module, hein, dedans il y a 5 modules. Donc ce chapitre entier, on l'a sorti de la formation Montessori pour pouvoir la proposer à tous les professionnels de la petite enfance.
Ah ben, franchement, c'est un sacré programme. Moi, je sais pas, est-ce qu'il y a 24 heures dans tes journées aussi ou t'as trouvé un autre deal?
Alors, non. Alors, non, soyons clairs, et ça, tu le disais aussi tout à l'heure, et c'est vrai, et je peux que remercier toute l'équipe qui m'entoure, parce que vraiment, en 5 ans, parce que là, je parle vraiment que de la partie où j'ai développé la formation en ligne, en 5 ans, j'ai réussi à grossir, à grandir, si je puis dire. Et j'ai des équipes géniales. J'ai des équipes géniales, pardon. Donc, ces équipes, elles sont constituées d'une chargée administrative, d'une community manager. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui y a d'autres ? Les formatrices qui sont à côté aussi, qui gèrent beaucoup de choses et qui m'ont permis, en fait, de me dégager du temps pour la création. Ce qui me plaît vraiment. En fait, je dois être honnête avec vous, d'être dirigeante d'un centre de formation, c'est pas ça qui me plaît. Moi, c'est de créer du contenu, de créer des formations et d'aider les parents et les professionnels. Et grâce à cette équipe, en fait, j'ai pu le faire. Et très, très honnêtement, je me rends compte que grâce à cette équipe, je peux apporter des choses qualitatives. Il y a 2 ans en arrière, il suffisait qu'il y ait un bug sur la plateforme, j'étais complètement sous l'eau. Parce qu'il faut que je gère les élèves, il faut que je gère la plateforme, il faut que je gère ci. Alors que là, plus du tout. Il y a aussi une webmaster qui nous accompagne, une rédactrice SEO, une super personne, n'est-ce pas, Safia, gros bisous à elle, qui s'occupe de nos pages de vente. Donc, tout ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on se rend compte que on se donne de la force les unes les autres. Ouais. Et plus le CFMI prend de l'ampleur, plus on a des formatrices qui nous appellent des quatre coins du monde carrément en nous disant « Bah voilà, moi, je propose telle formation. J'ai vu que vous ne l'aviez pas dans votre catalogue. Est-ce que ça vous intéresse ?» Là, on va rentrer des nouvelles formations. On va rentrer une formation Snows-Hélène que je ne connaissais pas du tout. C'est des techniques de luminothérapie. Bon, je schématise très, très... C'est pas du tout... Moi, c'est pas vraiment ça. Celles qui connaissent et qui m'entendraient, je crois qu'elles s'arracheraient les cheveux. Mais en gros, c'est vraiment utiliser les lumières pour les tout-petits, pour les 0-3 ans, pour les éveiller. Et je trouve que ça... C'est pas du Montessori, mais ça va dans cette dynamique du Montessori, donc c'est génial. On a une formatrice en portage qui arrive pour parler du portage physiologique des petits, une formatrice en DME. En fait, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est de réunir les meilleurs pour apporter le meilleur aux parents et aux professionnels.
Tout simplement.
Tout simplement.
Rien que ça.
Voilà. Non, mais je trouve que c'est très important parce que c'est vrai qu'on parlait des réseaux, de se montrer, de ne pas se montrer, etc. Et moi, je trouve que dans ma thématique, alors ça va peut-être en choquer certaines, mais je trouve qu'il y a un certain manque de bienveillance entre adultes qui parfois est palpable, parfois non, et heureusement, hein, parce que ce n'est pas le but, mais parfois, ça, j'en ai été moi-même un peu choquée et écœurée. Et je trouve que vraiment, le but, c'est qu'on s'apporte des choses très complémentaires et qu'on puisse avancer dans le même sens, en fait. Moi, comme je dis souvent, dans ma thématique, hein, vraiment, j'ai pas de concurrente. J'ai des collègues, j'ai des consoeurs.
Absolument.
C'est important pour moi, vraiment, que c'est cette étiquette qu'on ait les unes envers les autres, parce qu'on a toutes quelque chose à apporter, on a toute une sensibilité. Moi, je suis maman de 7 enfants, donc j'ai ma sensibilité de maman de famille nombreuse. Que quelqu'un qui a qu'un seul enfant ou qui n'a pas du tout d'enfant n'aura pas. Et elle n'aura pas une moins bonne sensibilité que moi. Elle en aura une différente qui pourra être intéressante parce qu'elle aura un autre point de vue. Et on est emprunt de notre vécu personnel sur ce qu'on retransmet à nos élèves. Donc je trouve que d'avoir une diversité de personnes, c'est très important.
Magnifique. Et je te rejoins tout à fait parce que c'est ce que je dis également aux membres de la Social Media School, donc les filles qui apprennent à être social media manager dans ma formation. Je leur dis exactement la même chose, qu'il n'y a pas de concurrence en fait. Il n'y a que des collègues, quoi. Donc comme tu dis, et j'aime beaucoup ta vision de sororité. Ça fait un peu cliché, mais c'est ça, quoi. Au final, c'est on s'aide à être meilleur et à se compléter finalement. Et aucune ne ressemble à aucune autre, donc c'est vraiment top. Merci mille fois pour toutes ces vibes, tu vois, très positives, très encourageantes. Moi, j'adore ça, j'aime beaucoup ça. Et je te remercie vraiment beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis sans filtre et avec beaucoup de douceur. Aude, merci mille fois. Et je remercie aussi les filles qui nous auront écoutées. Donc, je vais mettre tout ce qui est en rapport avec tout ce dont tu nous as parlé, je vais le mettre en lien sous l'épisode. Et faut vraiment pas hésiter à te contacter. Donc, je vais mettre toutes les possibilités pour te contacter, Instagram, email, tout ce qu'il faut. Et que les personnes n'hésitent pas à te contacter si elles ont des questions ou besoin de compléments d'informations sur ce que tu proposes, parce que c'est hyper intéressant. Donc, merci Aude. Je te laisse le mot de la fin et je te fais de gros bisous et bisous à vous toutes.
Merci encore à toi, Déborah, de m'avoir reçue. Merci à vous, effectivement, de m'avoir écoutée. Vraiment, le petit mot de la fin, c'est justement restez vous-même. Vraiment, c'est très, très important. Je continue dans cette thématique de l'enfant, de dire, voilà, aujourd'hui, nous sommes devenus peut-être les adultes qu'on n'aurait pas pensé devenir, mais il faut toujours être fier de ce qu'on a fait et se dire que c'est jamais, jamais trop tard. Moi, quand je vois mon parcours il y a 10 ans en arrière et où j'en suis arrivée aujourd'hui, je ressens une grande fierté et je me dis qu'aujourd'hui, j'ai vraiment encore plus envie de transmettre tout ça aux enfants de demain pour qu'eux aussi soient fiers de l'adulte qu'ils deviendront.
Waouh, merci beaucoup Aude. Hâte de voir tout ça se mettre en place et d'en voir encore davantage sur ce que tu nous proposes. Merci beaucoup, Aude.
Merci, Déborah.